Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Julien Verchère, en duo avec Stéphanie Borg pour ce podcast coproduit par Rhône Express et Tout Lyon, le média lyonnais qui vous parle d'écho et de plein d'autres sujets. Elle est née à deux pas de Lyon, mais son parcours fait d'elle une vraie Lyonnaise. Histoire, histoire de l'art, archéologie, tourisme, muséologie, cette touche-à-tout laisse aujourd'hui son esprit curieux vagabonder dans le monde de l'art contemporain. Dénicheuse, passeuse, catalyseuse, elle est de ces indispensables relais entre ombre et lumière. Directrice du musée d'art contemporain, elle pilote en parallèle la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui se déroule jusqu'à fin 2022 partout dans la métropole. Sans plus attendre, rejoignons sur le quai du Rhône Express à la Part-Dieu notre invitée, Isabelle Bertolotti, qui patiente, regard bleu perçant et allure décidée, pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 2, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Isabelle Bertolotti, bonjour.
Bonjour.
Nous allons passer un petit moment ensemble. C'est d'ailleurs l'heure du départ. Et vous, Isabelle, où situez-vous ce moment originel, ce point de bascule qui vous tourne vers l'art et qui finalement vous mène aujourd'hui à la tête de cette Biennale d'art contemporain ?
En fait, ça remonte assez loin puisque je devais avoir une vingtaine d'années quand un de mes professeurs d'histoire de l'art m'a raconté des voyages, des histoires sur l'Égypte, sur la Grèce, sur plein de choses qui m'ont fait beaucoup rêver et qui m'ont donné envie d'en savoir plus et de voyager un peu partout.
Racontez-nous votre parcours. Comment vous en êtes arrivée là ?
En fait, j'avais au départ plutôt envie de voyager, parce que c'est le voyage qui m'intéresse. J'étais assez curieuse de découvrir un peu tout ce qui se passait dans le monde. Et j'avais plutôt fait des études tournées vers le tourisme. Au départ, aménagement du territoire, des rencontres, des choses qui pouvaient permettre aux gens de se rencontrer, de découvrir des nouvelles choses. Et puis, ce fameux professeur d'histoire de l'art m'a complètement fascinée sur ces histoires qui m'ont donné envie d'aller les voir sur place. Donc, je suis partie à l'époque en stop, ça se faisait beaucoup plus que maintenant, en train, en différents moyens qui m'ont permis d'aller en Égypte, en Grèce, en Italie, découvrir des sites antiques. Et petit à petit, cette chose-là m'a donné envie d'en savoir plus, donc de faire des études plus spécialisées en histoire de l'art, principalement en archéologie parce que c'était l'art ancien qui m'intéressait, découvrir ces choses, cette vie qu'il y avait eu soi-disant avant, et puis toutes ces histoires qu'on en racontait et voir comment je pouvais moi aussi participer à ça. Et puis de fil en aiguille, la muséologie m'a intéressée et je suis par un ami artiste, alors vraiment un contemporain à l'époque, hein, qui était un copain, m'a indiqué qu'effectivement il y avait un poste au musée d'art contemporain de Lyon que j'ai pris. Et depuis, les choses ont évolué petit à petit et j'en ai pris la direction en 2018 et puis en même temps la direction de la Biennale d'art contemporain.
Justement, dans notre monde un petit peu incertain, hyper chahuté, où des préoccupations sont plutôt conflits, inflation, migration, quelle est la place de l'art dans tout ça ?
En fait, on s'est rendu compte, alors peut-être pour tous ceux qui ont vécu cette période Covid, c'était quand même pas mal de beaucoup de monde, que ça faisait partie des choses essentielles. C'est-à-dire qu'on avait besoin aussi que d'autres nous racontent des histoires, que d'autres nous montrent des choses qu'on n'avait pas forcément vues, pas forcément envie de voir. Et nous, voilà, cette histoire, je crois pour moi profondément, cette nouvelle façon peut-être de voir le monde, d'autres points de vue, puisque des artistes viennent de tous les continents avec d'autres cultures. Et ça permet d'imaginer, de rêver, mais aussi de se rendre compte de certaines choses, de remettre en question aussi certaines certitudes qu'on a peut-être. Et puis d'apporter de la joie aussi, de temps en temps. Un peu de tristesse quand on se rend compte de choses qui nous sont parues peut-être passées par ailleurs sans qu'on s'en soit rendu compte. En fait, toutes ces histoires qu'on peut imaginer, tous ces univers qu'on découvre, et pour moi c'était important d'entendre ces voix qui venaient d'un peu partout et surtout de les faire entendre, puisque c'est un peu mon rôle d'être passeur et catalyseur justement.
Vous avez choisi d'intituler votre Biennale 2022 En gros, pour résumer, la symbolique, c'est la fragilité. Est-ce que c'est pour vous aussi une réponse à ce questionnement dans cet univers ?
Alors, c'est peut-être pas une réponse, mais c'est un constat. En fait, on se rend compte qu'on est tous fragiles. Là, on l'a tous vécu, mais de façon alors complètement universelle. Cette fois-ci, il n'y avait pas de question d'origine, d'âge, de culture, de géographie spécifique, de niveau de richesse ou pas. La fragilité, on l'a tous vécu. Et justement, cette fragilité-là, le fait que notre vie soit relativement éphémère, que notre présence sur Terre l'est, est-ce que, voire même l'humanité, n'est pas, comme on l'imaginait, totalement éternelle. Toute cette fragilité-là, on s'en est tous rendu compte, quelle que soit notre place sur la planète. Et donc, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des réponses différentes, qu'il y avait des réactions différentes, que les artistes ont beaucoup réagi aussi, et qu'il fallait qu'on en parle, et que voir cette manière de, non pas de résilience, mais de résistance qui était importante. Comment est-ce qu'on peut arriver à surpasser ce sentiment qui est un peu flippant, on va dire, hein. Comment est-ce qu'on peut arriver à se dire, il faut qu'on arrive à surpasser ça et arriver à trouver une force en nous, ou peut-être avec les autres, ou peut-être grâce aux autres, pour arriver à retrouver une autre façon peut-être de vivre ensemble, de pouvoir redécouvrir des choses qui nous ont manqué aussi pendant cette période-là, ou qu'on n'avait pas du tout vu, dont on n'avait pas conscience jusqu'à présent.
Je reviens un peu à cette notion d'art contemporain. On dit parfois qu'il a une étiquette solidement collée, une étiquette élitiste. Que répondez-vous généralement à ce type de critique ?
Je pense que le monde de l'art contemporain et même le monde des musées aussi, beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu un énorme, peut-être une prise de conscience aussi, que l'ouverture au public était vraiment nécessaire, mais aussi les médiums utilisés par les artistes sont devenus extrêmement accessibles. La vidéo, le son, les installations, le côté participatif aussi, qui est quand même très important, la performance, toutes ces formes-là qui impliquent aussi le public, qui permet des interactions, qui permet d'être partagé à plusieurs. Quand on visite un musée, par exemple, ou une exposition, on peut y aller en groupe, avec les enfants, avec des amis, en discuter pendant qu'on visite, avoir des interactions aussi au moment même où certaines œuvres sont participatives. Toutes ces nouvelles formes, je pense, d'art contemporain ont démocratisé, entre guillemets, ou en tout cas rendu plus accessible, ne serait-ce que dans la pensée même, en tout cas la peur peut-être qu'on avait avant de ne pas comprendre, entre guillemets. On se rend compte que comme on parle d'actualité, comme les artistes parlent d'actualité, tout de suite on est interpellé, et du coup on peut rentrer les propos qui sont transmis par les artistes.
Vous avez l'air de vous épanouir dans deux dimensions, à la fois quand vous occupez de jeunes artistes locaux et d'icônes modernes, et puis quand vous avez la possibilité de réunir dans une biennale, par exemple, l'art au plus près des habitants avec votre programme Veduta, par exemple, et des artistes reconnus. À une époque où on oppose souvent le local et le global, quel est votre secret ? Comment vous réagissez ?
En fait, je pense que si on veut... Déjà, il y a un ancrage local qui, pour moi, est essentiel. Il est extrêmement important qu'on s'intéresse déjà à ce qu'on a autour de nous, aider la jeune création qui deviendra nos artistes importants de demain, mais aussi pour pouvoir être fort, il faut qu'on les connaisse, mais qu'on puisse aussi les faire évoluer, les exporter, les faire connaître et rencontrer d'autres cultures, d'autres artistes. Et donc c'est ce mélange qui est important pour moi, c'est non pas rester ensemble dans notre petit coin, mais bien aussi rencontrer d'autres propositions, d'autres artistes. Donc effectivement, depuis plusieurs années, j'essaye en tout cas d'emmener des artistes à l'international, de leur faire rencontrer des scènes qui sont parfois les plus loin possibles, parce que c'est pas forcément évident d'aller en Afrique du Sud ou à Cuba ou à Singapour ou en Chine quand on est un jeune artiste, mais par contre quand on est avec un groupe et quand on a comme nous l'avons le réseau qui permet de rencontrer d'autres professionnels, d'aller dans d'autres musées dans des conditions qui sont pas du tout les mêmes que nous, parce que l'approche parfois d'un on va dire, d'un spectateur chinois n'est pas du tout la même que celle d'un spectateur français. Et donc, on se rend compte de ses habitudes aussi, de la manière dont on expose, dans la manière dont on écoute les choses, la question des odeurs, du son, de la juxtaposition des œuvres, des matériaux utilisés, tout ce que peut apprendre aussi un artiste qui voyage, mais qui peut aussi apprendre à d'autres artistes. Il y a un échange, et cette curiosité-là, pour moi, est extrêmement importante, et cette construction du réseau par rapport à une dimension mondiale est pour moi très importante, parce qu'on s'enrichit tout le temps.
Et qu'avez-vous appris de ces rencontres avec les habitants plus locaux, avec une forme d'art complètement différente ?
Alors, ce qui était important pour moi, c'est que je me rends compte que depuis très longtemps, on a beaucoup travaillé sur du périurbain, c'est-à-dire qu'effectivement, on disait, bon, bah, dans certains quartiers, l'art contemporain peut être moins visible, etc. Moi, je pense que cette partie-là, on a quand même réussi à intervenir dans de très nombreux quartiers, dans des écoles, des collèges, mais aussi dans des médiathèques, dans d'autres lieux peut-être moins évidents, comme par exemple l'établissement public pour mineurs de Mézieux, mais aussi des hôpitaux, mais aussi des endroits où effectivement les publics sont empêchés, on va dire, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer, donc c'est à nous de se déplacer. Mais récemment, moi, j'avais très envie qu'on aille aussi dans un milieu que j'appellerais plus rural, où il n'est pas évident de venir en ville, on va dire tout simplement, parce que c'est pas forcément dans les habitudes, c'est plus compliqué, les transports en commun, les transports même parfois qui n'existent pas pour que se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc il fallait qu'on se déplace nous aussi et qu'on aille voyager et travailler avec ces personnes qui apportent aussi une autre forme de culture, une autre forme d'avis, d'envie, de curiosité, qui, moi, sont aussi importantes que de découvrir un quartier chinois, une campagne que je ne connais pas forcément, ou un paysage qui apporte quelque chose aussi aux artistes, parce que cette dimension environnementale est pour moi essentielle dans la construction d'un artiste, et je suis persuadée qu'elle influence toujours une création ensuite, parce qu'il a rencontré telle ou telle chose ou tel matériau, ne serait-ce que voilà, des matériaux qui ont inspiré, des paysages qui ont inspiré. On l'a vu de tout temps, les artistes se sont inspirés aussi de l'extérieur, de l'intérieur, des faits politiques, des faits historiques. Et tout ça, c'est extrêmement important.
C'est pour ça aussi que vous en faites venir certains directement sur des lieux que vous avez sélectionnés pour une biennale.
On fait en sorte effectivement qu'il y ait une très forte création sur place, une forte production. D'une part parce que c'est extrêmement, pour moi, plaisant et important que les artistes soient là sur du temps long. Pas simplement venir poser une œuvre et repartir, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cet échange justement qu'on a, les faire venir se rencontrer entre eux. Ils échangent des techniques, des manières de travailler, leur réseau aussi. Mais aussi cette prise en compte de l'existant, de ce qui est sur place, des dimensions, des volumes, des matériaux, toutes ces choses-là font qu'ils vont produire pendant un certain temps. Et ce temps long est indispensable aussi pour la création, dans le sens où ils vont pouvoir digérer des informations, par exemple locales, notre histoire locale aussi, hein, qui est, par exemple, dans cette biennale-là, traduite sur 2000 ans d'histoire. Et donc, c'est important qu'il y ait cette confrontation entre le local et l'international sur du temps qui permet aux habitants ou aux participants de collaborer, d'apporter aussi leurs propres expériences. Ça peut être également, comme on l'a fait sur cette édition-là, des discussions qu'on a avec des équipes scientifiques de musées différents, musée des Hospices civils, par exemple, qui est un musée qui actuellement est fermé, mais dont les équipes nous ont transmis plein d'informations super et prêté des œuvres, mais aussi le musée des tissus, par exemple, qui, pareil, est fermé, mais qui nous a permis de travailler également avec leur collection. Le musée des Beaux-Arts, bien évidemment, le musée de Fourvière, qui avait des collections assez extraordinaires, mais aussi le musée de Gadagne, le musée de Luc Dunhomme, et j'en oublie, et voilà, plein d'autres musées, le musée Paul Dini. Voilà, on a travaillé avec beaucoup de musées en local, mais aussi à l'international, puisqu'on avait l'intention à un moment donné de faire voyager pas mal d'œuvres qui étaient, ça pouvait être aussi bien le Louvre à Abu Dhabi que le Metropolitan, le musée de Dresde, avec qui on a aussi beaucoup échangé sur le projet, et qui nous ont tous fait des propositions de choses qu'on ne voyait pas forcément dans les salles d'expo. mais qui étaient parfois cachées en réserve et qu'on a sorti un petit peu des réserves, parfois pour montrer que justement certaines œuvres ne sont pas montrées parce qu'elles sont fragiles, parfois abîmées, parfois donc qu'on n'imagine pas montrables dans un circuit habituel, mais que justement dans le contexte de la Biennale, c'était parfaitement montrable dans ce contexte-là, et au contraire, ça illustrait totalement notre propos.
Isabelle Bertolotti, l'art contemporain peut-il vraiment changer le monde ?
Alors, c'est difficile de dire que l'art contemporain peut changer le monde, dans le sens où c'est comme tout art, le cinéma, la musique, plein d'autres choses qui sont là pour nous faire prendre conscience de certaines choses, qui sont là peut-être pour pointer ou critiquer parfois. Mais en tout cas, ça nous alerte sur des points, ce fameux pas de côté qu'on a et qui nous permet de voir les choses autrement. Alors, d'une certaine manière, oui, je pense que ça fait changer le monde, parce que on se rend compte que dans les recherches qu'on a fait sur les expositions sur lesquelles on travaille, on arrive aussi à voir toutes les implications économiques, écologiques, historiques, ce fameux battement d'aile du papillon qui a des répercussions dans le monde entier. Donc je pense que même à un tout petit niveau, chaque chose change de toute façon le monde, et l'art en fait partie de manière extrêmement importante pour moi.
Vous considérez-vous comme une actrice de ce changement néanmoins ?
Un tout petit maillon peut-être, à mon échelle, et en tout cas plutôt catalyseur, c'est-à-dire que vraiment je veux juste être là pour essayer de faire émerger des choses. Peut-être que si quelques personnes ont changé un petit peu leur façon de voir, ont une envie d'en voir plus, cette fameuse curiosité, moi qui m'intéresse, c'est déjà ça, et cette ouverture sur l'autre, cette façon de voir différemment, et peut-être cette acceptation aussi d'autres façons de penser qui sont pour moi essentielles quand on doit partager une planète ensemble.
C'est un peu dur à évaluer, mais est-ce que vous pensez que ça a déjà arrivé, cette action sur quelque chose ou quelqu'un ?
Bah de toute façon, oui. Quand on regarde des films comme ceux qu'on a actuellement dans la Biennale, ou par exemple, on a Nadine Labaki qui nous montre ce très très beau film qui est une forme de dessin animé, donc qui est accessible assez aisément par quel que soit l'âge de la personne qui regarde le film, où on a cet environnement de guerre au Liban, et où on se rend compte que finalement ça a des résonances actuelles avec la guerre en Ukraine, et que on a aussi ces enfants qui sont de toute façon soudain séparés de leur famille. Ça nous fait prendre conscience aussi de la question des migrations, que c'est pas du tout non plus le côté que négatif qu'on évoque souvent. Je pense que toutes ces petites fragilités, des grosses fragilités, mais parfois des petites fragilités, qui nous touchent avec une très belle musique, par exemple dans ce film là, je crois qu'on est ému certaines fois par des choses, et on l'est pas tous de la même manière, mais en tout cas certains vont être émus par une autre œuvre qui sera une œuvre de Sylvie Sélig, où on voit des petits personnages étranges qui sont avec des choses qu'on peut imaginer comme étant un univers spécial, ou encore, peut-être pour des plus petits-enfants, les tout petits personnages verts de Kim Simonson, qu'on retrouve presque partout dans les 12 lieux de la Biennale, qui sont comme des petits lutins verts, qui nous font des espèces de petits coucous si on arrive à les trouver, parce que c'est un petit jeu de piste. Et en fait, on peut s'amuser à les suivre, et on se rend compte peut-être qu'ils sont les prochains habitants de cette Terre si on venait à disparaître.
D'ailleurs, êtes-vous vous-même une artiste ?
Non, alors je ne pense pas du tout être une artiste. Je pense qu'au contraire, je m'intéresse aux artistes parce que je n'en suis pas spécifiquement une. Je pense que c'est cette sensibilité-là qui m'intéresse. Donc je pense qu'ils ont des choses à dire, et à moi de les mettre en avant et de faire en sorte qu'on les entende plus, qu'on les voit plus, et qu'on soit à chacun dans sa sensibilité. attentif à des choses qu'on ne perçoit pas forcément, mais peut-être attirer l'œil sur des détails, sur des arbres qu'on aperçoit en passant, alors qu'on a l'habitude de le passer toujours au même endroit tous les jours et qu'on ne les voit plus, mais aussi entendre des sons, enfin toutes ces choses-là qui semblent être des sens qui sont plus sollicités quand on regarde de l'art contemporain et qu'on se rend compte qu'on arrive à sans avoir forcément une connaissance de l'histoire de l'art, à être sensible à certaines œuvres.
Racontez-nous un peu comment vous construisez une biennale. Racontez-nous ce voyage pour la construire. Alors, je sais évidemment que vous n'êtes pas la seule, mais donnez-nous quelques détails, quelques mystères révélés.
Alors, en fait, dans un premier temps, j'imagine un axe global dans une direction que j'ai envie de donner. Là, j'avais envie que sur cette biennale-là, on ait donc cet ancrage local fort, que l'histoire soit prise en compte, l'histoire de Lyon. Et Lyon a justement cette chance par rapport à beaucoup d'autres villes d'avoir une lisibilité de cette histoire à travers ces bâtiments. Quand je dis bâtiments, c'est architecture ou traces d'architecture, hein, puisqu'on a des traces du gallo-romain jusqu'au 21e siècle. Et donc tout ça, comment est-ce qu'on arrivait à faire vivre ça et comment est-ce qu'on le racontait? Parce que ce qui est intéressant maintenant, c'est cette question du storytelling. On a envie d'entendre des histoires, on a envie de suivre ces petites histoires-là qui ne sont pas forcément la grande histoire, mais ces petites histoires font la grande histoire. Et donc l'idée était, et dans la commande que j'ai faite aux deux commissaires de l'exposition, Sam Bardawil et Till Fellrath, était de raconter à travers des œuvres aussi bien anciennes que contemporaines une histoire. Et ils ont choisi, en travaillant à partir d'archives découvertes pendant un temps de recherche avec les scientifiques, qu'on avait une fameuse Louise Brunet, une jeune femme qui, au début du 19e siècle, était fileuse de soie. Elle venait de la Drôme, hein, donc de la région. Et puis, elle s'est retrouvée à Lyon, plus ou moins impliquée dans la révolte des Canuts. Elle s'est retrouvée même en prison. Et à sa sortie de prison, elle a dû quitter le pays. Elle est allée au Liban. Et en fait, on s'est rendu compte, on a découvert les relations qu'il y avait entre Lyon et le Liban, puisque des entreprises de soie s'étaient installées au Liban, avaient développé une partie importante de la soierie de manufacture de soie, mais aussi des mûriers qui nourrissaient les vers à soie, et que cette façon d'être là-bas, cette manière, on va dire, par quelque chose d'un peu étrange, a complètement développé le pays avec le développement des entreprises, des banques, du port, et que finalement, l'université aussi s'était déplacée là-bas, l'école jésuite, il y avait des choses qui se sont complètement développées. Et à notre petit niveau de Lyonnais, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens très forts avec le Liban, sachant qu'un des commissaires était libanais, que lui-même ne connaissait pas cette histoire. On en a parlé aussi aux soyeux lyonnais qui avaient oublié cette partie-là. Et donc c'était super intéressant, tout d'un coup, de redécouvrir des petites histoires à travers cette femme qui a existé, mais dont on a perdu la trace, parce qu'il semblerait qu'à Beyrouth, au Liban, en tout cas, elle ait fait encore quelques petites choses qui aient fait qu'elle a disparu. On a perdu sa trace. Et on a imaginé peut-être d'autres Louise Brunet, d'autres femmes comme ça, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément que des femmes, puisque c'était plutôt une métaphore sur cette fragilité, et comment on arrivait à en avoir d'autres exemples et qu'on puisse ensuite aller sur l'échelle d'une ville, donc Beyrouth, puis sur l'échelle du monde, et voir comment, à travers cette fragilité, on pouvait avoir cette résistance qu'on retrouvait de manière universelle dans des créations nouvelles.
Alors Isabelle Bertolotti, on aperçoit au loin les ailes d'acier et de béton de la gare de Calatrava, presque une forme d'art contemporain, et également les terminaux de l'aéroport Saint-Exupéry tout proche. Cet aéroport, c'est un lieu où on peut régulièrement vous croiser.
Oui, effectivement, et vous faites bien de dire les ailes de Calatrava, parce qu'elles sont magnifiques. Moi, c'est une architecture que j'aime beaucoup, qui pour moi est aussi un symbole de rêve et de voyage, qui me ramène à mes amours, puisque j'adore effectivement voyager. Je suis effectivement quelqu'un qui voyage beaucoup et qui, de fait, en voyageant loin, prend l'avion pour aller sur différents continents, rencontrer d'autres cultures. Et pour moi, c'est un lieu effectivement que je connais bien et que je fréquente régulièrement.
Quel est le voyage qui vous a le plus marqué ?
Alors beaucoup m'ont marqué parce que j'ai découvert plein de choses très très différentes, mais la Chine sur Shanghai en tout cas m'a fait découvrir des choses que j'imaginais pas, sur une dynamique, une autre façon de penser qui pour moi était vraiment intéressante, mais y compris la Russie d'il y a quelques années, on va dire pas l'actuel, mais en tout cas il y a quelques années, et puis l'Afrique du Sud, bien évidemment, parce que c'est tellement étrange comme pays. Alors je dirais pas que j'ai aimé tous les pays, mais des découvertes que j'ai faites, parce que cette cohabitation, en tout cas en Afrique du Sud, assez difficile, à Cape Town et les townships étaient assez durs, mais en tout cas c'était important de le voir dans le cadre du travail, puisqu'on discute avec les gens en local, voir quelles sont leurs difficultés, comment ils arrivent à s'en sortir malgré tout. Et puis après, plein d'autres lieux où j'apprenais à chaque fois d'autres façons de vivre. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur autre façon de voir qui nous permet de prendre un peu de recul et de visionner et de percevoir les choses autrement.
Malgré tous ces voyages, quel est celui que vous n'avez pas encore réalisé ?
Alors, ça va vous. Je crois que je suis allée dans beaucoup, beaucoup de pays et je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a 3 ans, j'avais absolument dit si un jour je m'arrête de voyager, il faudra que de toute façon, avant, j'aille en Australie. Et il y avait la Biennale de Sydney, donc je suis partie pour la Biennale de Sydney. Et arrivée sur ce territoire, je me suis dit, c'est étonnant, c'est mon dernier voyage peut-être, parce que c'est vraiment l'endroit où j'avais envie d'aller si un jour je devais m'arrêter. Et je commence les premiers jours de la Biennale de Sydney, mais le tout premier jour et le deuxième jour, et tout d'un coup, le Covid se déclenche. Et on nous dit, là, il faut absolument rentrer, tous les aéroports de connexion se ferment, vous ne pourrez plus repartir. Et là, ça m'a fait un effet étrange. Je me suis dit, c'est mon dernier voyage que j'imaginais. Est-ce que c'est vraiment le dernier voyage qui va se passer ? Est-ce que je ne pourrai plus jamais voyager ? Et donc, on était plusieurs de Français à se retrouver, à essayer de repartir. Et pas que des Français, parce qu'il y avait effectivement des Anglais ou des Européens qui cherchaient donc à repartir assez vite. On a repris l'avion. Et c'était étrange, parce qu'à partir de ce moment-là, tout s'est arrêté. Les avions, tout a été fermé, les aéroports. Et c'était presque une sorte de fin du monde qui s'est produit à ce moment-là, en se disant, est-ce qu'un jour, on pourra revoyager et ça a duré relativement longtemps, puisque pendant presque 2 ans, on n'a pas pu bouger. Donc c'était étrange que cette dernière destination que je voulais absolument faire, ce soit celle qui a tout d'un coup arrêté un petit peu l'ensemble de l'avion, en tout cas des voyages sur la planète, parce que c'est pas que l'avion, parce qu'on pouvait même plus se déplacer en dehors de chez nous.
Et du coup, maintenant que vous pouvez rebouger...
Alors maintenant que je peux rebouger, je suis allée récemment au Kosovo, par exemple, puisque je crois que ce sont aussi des pays qui sont très très intéressants à voir, avec des populations très jeunes, très dynamiques, qui ont beaucoup de choses à nous dire. À mon avis, on a à apprendre aussi de ces peuples qui sont dans des conditions pas simples, économiquement parlant, mais avec des architectures extrêmement belles, des années 70 par exemple, que j'ai redécouvertes, mais dans des conditions de vie pas évidentes. Mais malgré tout, il y a à mon avis encore plein d'endroits qui sont à découvrir, peut-être plus proches ou peut-être plus loin, mais en tout cas, je pense qu'il y a encore plein de choses qu'il faut qu'on aille voir.
Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. Isabelle Bertolotti, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous laisse partir vers d'autres horizons.
Merci et à très bientôt.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.